Donc pour ce matin, bien, le message se trouve dans l'évangile de Luc. Je vous invite à regarder avec moi ce texte, à le lire ensemble. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 13. On va lire donc du verset 13 au verset 35. Voilà, jusqu'au verset 35. Donc Luc, évangile de Luc, chapitre 24, verset 13 à 35. Et donc j'ai intitulé ce message « Des disciples lents à croire ». C'est peut-être aussi ce que nous sommes parfois, lents à croire. Voilà. Mais le Seigneur, comme le dit à un moment donné cet homme, vous savez, dans les évangiles, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité, augmente ma foi ». Voilà. Mais oui, nous croyons, bien sûr, nous l'avons confessé tout à l'heure, nous l'avons chanté de tout notre cœur, et le Seigneur est présent au milieu de nous par son Saint-Esprit pour nous aider à aller de l'avant. Alors on lit ensemble ce texte, Luc chapitre 24, versets 13 à 35. « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. » Ça vous dit quelque chose, ça, Emmaüs? Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ?» Ne sache pas ce qui s'y est passé, ce qui est arrivé ces jours-ci, pardon. Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, eh bien, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alors quelle merveilleuse histoire! Et on est, nous aussi, évidemment, étonnés aussi devant leur, comment dire, leur atermoiement à ses disciples, leurs hésitations. Mais nous, on connaît la fin de l'histoire aussi. On n'est pas dans la même situation, il faut dire. Et moi, je trouve que, malgré tout, quand même, ses disciples nous ressemblent un peu. Et que parfois, effectivement, eh bien, nous manquons de foi, nous hésitons. On a besoin de preuves, on a besoin de signes, on a besoin de ceci, de cela. Et nous leur ressemblons quand même pas mal. Je voudrais d'abord regarder avec vous les versets 13 à 19, au début du verset 19. On voit donc ces disciples, ces deux disciples qui s'éloignent de Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre de la vie spirituelle. Hein. C'est là où il y a le temple, c'est là où le Seigneur, bien sûr, est mort. Et on voit que Jésus s'approche d'eux. Il les rejoint, le verset 15, « Pendant qu'ils parlaient, donc ces deux disciples, et qu'ils discutaient entre eux, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les gens qui font route avec moi. Ou j'aime moi aussi rejoindre les personnes qui marchent sur le chemin et être avec eux, là, près d'eux. « Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas ?» Et cheminer avec eux. Je trouve la première chose que je voudrais souligner là, c'est cette attitude de Jésus. Alors, que veut dire s'approcher des personnes, comme Jésus l'a fait ? La première chose que je voudrais soulever là, donc, que veut dire s'approcher des personnes ? Comment les rejoindre aussi ? Imaginez que vous marchez, puis il y a quelqu'un qui vient vers vous comme ça, que vous ne connaissez pas, parce que là, c'est le cas. Bien, vous avez de quoi être interpellé. Moi, j'aime bien des fois bien, un petit mot, ça peut enclencher une discussion. Les gens ont besoin, sont avides de contacts, ont besoin de relations, ont besoin de gens qui s'approchent d'eux, de gens qui viennent les rejoindre. Les rejoindre, ça veut dire marcher au même rythme qu'eux, ni devant, ni derrière, ni loin, et puis écouter aussi. Et c'est ce que fait Jésus au verset 17. Jésus pose deux questions. De quoi vous entretenez-vous en marchant ? Vous parlez de quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est un côté un peu peut-être ironique. Et puis, bien les disciples disent, ben, t'es pas au courant de tout ce qui s'est passé à Jérusalem, etc. Ce prophète qui a fait des miracles, eh bien, les magistrats l'ont tué. La deuxième question, verset 19, quoi ? De quels événements me parlez-vous ? Donc, on voit que, et c'est la deuxième chose que je voudrais souligner ici, que Jésus s'intéresse à eux. Enfin, il ne suffit pas de rejoindre les gens, encore faut-il s'intéresser à eux. Hein ? Et poser des questions pour ça, c'est important. Poser des questions. Est-ce que nous nous intéressons, nous, aux personnes ? Quand vous faites les courses, quand vous avez un contact dans la rue, que vous, voilà, vous êtes dans un lieu où, bon, à proximité des gens, et que, bon, on est là pour un certain temps, j'en sais rien, moi, dans une salle d'attente ou n'importe quoi. Il y a des fois plein d'occasions pour rejoindre les gens et pour s'intéresser à eux et leur poser des questions. Et ce qui me plaît aussi dans l'attitude de Jésus, c'est que Jésus discerne de la tristesse dans leur cœur. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste ? Donc Jésus aussi voit leur état. Et c'est pas juste, voilà, bon, mais on va faire un bout de chemin ensemble. On va papoter, mais Jésus, donc là, eh bien, montre qu'il voit quelque chose derrière les masques. Et c'est la troisième chose que je voudrais souligner dans ces passages. Savons-nous lire dans les cœurs ? Savons-nous discerner ce qui se cache derrière les masques, les apparences des personnes que nous rencontrons ? Ça demande d'être, quand nous sommes avec eux, en prière intérieure. C'est-à-dire qu'on est là, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ? On pense ça, quoi. On est là en prière. Qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne ? Peut-être rien dire. Est-ce que je dois dire ou pas dire ? Vous voyez ? C'est ça une vraie écoute. On peut avoir des fois le silence, il y a des silences qui sont lourds, aussi bien qu'ils sont pénibles, lourdes, pénible, mais il y a des silences aussi qui ont du poids, qui veulent dire beaucoup. Donc ça me semble important déjà dans l'attitude de Jésus à souligner dans ces versets 13 à 19. La suite, versets 19 à 24. Alors, versets 19 au verset 21, les deux hommes expriment leur désarroi, leur incompréhension. Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Donc ils expriment leur désarroi. Ils comptaient sur ce prophète qui avait fait tant de miracles, et voilà que les magistrats, les responsables religieux l'ont mis à mort. Et puis ils expriment aussi une désillusion très forte. Ne sais-tu pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment les principaux sacrificateurs, les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et c'est surtout cette phrase-là, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc là, ces personnes expriment une vraie désillusion. Et je voudrais dire que les désillusions sont forcément la conséquence des illusions. Des illusions. C'est-à-dire que, on a cru, on a pensé des choses, finalement, qui étaient fausses ou pas justes. Et ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, comme on l'aurait voulu, comme ça aurait été bien selon nous, en tout cas. Nous espérions que ce serait lui. Et il est mort. Sauf qu'il est juste à côté d'eux. C'est vraiment une situation étonnante. Mais alors, de quelle délivrance parlent ses disciples? Quelle délivrance Jésus est venu apporter? C'est peut-être pas celle qu'eux espéraient. C'est là où je parle d'une illusion. Jésus avait dit au début de son ministère terrestre, rappelez-vous à la fameuse synagogue de Nazareth, en Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Alléluia, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est bien à cela que le Seigneur nous appelle. Non pas combattre avec des armes charnelles, humaines, mais avec les armes de l'Esprit, avec la proclamation de l'Évangile, par notre témoignage. Et donc, c'était la mission du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux pensaient que ce prophète puissant, il est vrai, Jésus, puissant à un signe miraculeux allait bien sûr bouter, expulser les Romains de leur territoire occupé. Alors, comme eux, est-ce que parfois, comme ses disciples, nous-mêmes, nous n'aurions pas des attentes qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu? Rappelez-vous ce que Jésus a dit à un moment donné à Pierre, vous savez. Quand Pierre dit « Attends, moi je vais venir, il ne va pas se passer ce que tu dis, je vais te défendre. » Jésus, arrière de moi, Satan, tu veux empêcher le plan de Dieu de se dérouler. Il se peut que, comme eux, nous aussi, nous ayons des attentes démesurées, peut-être des attentes motivées par notre histoire personnelle, nos frustrations, que sais-je d'autre. Et puis, patatrac, ça ne se passe pas comme on l'avait pensé, comme on l'avait imaginé. Mais posons-nous la question, est-ce que nous sommes bien à l'heure du Seigneur? Sommes-nous prêts à rester dans cette vigilance d'une sentinelle qui, calmement, mais sûrement, prie en se tenant sur la brèche, attendant l'action de Dieu, au lieu de vouloir devancer le Seigneur? Est-ce que nous serions prêts, par exemple, à semer? En priant, bien que le Seigneur fasse pousser, mais que ce soit peut-être quelqu'un d'autre qui récolte le fruit de notre travail ou de notre prière. Qu'est-ce qui motive réellement nos prières et en définitive nos attentes spirituelles? Il faut se poser ces questions-là. Alors la première chose que je voudrais dire sur ce passage, c'est que prenons garde au regard idéalisé que nous portons sur le passé, quand pris dans nos illusions, nous le comparons au présent. Ainsi, ces disciples d'Emmaüs. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, mais on voit bien qu'il y a un décalage entre ce qu'ils ont connu dans le passé et ce que, comme ils disent, ces quelques femmes leur ont dit. Elles nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Bon, voilà, on voit bien. Mais lui, eh bien, on ne l'a pas vu. Donc ses disciples, en réalité, ces disciples d'Emmaüs, se sont enfermés dans les événements du passé. Ils ne peuvent s'en libérer. Et je voudrais maintenant dire une deuxième chose par rapport à cette attitude-là, qu'on peut généraliser. Quand on vit dans un passé reconstruit, idéalisé, et qu'on le compare à un présent, la désillusion n'est pas bien loin. Il n'y a qu'à voir donc l'attitude de ces deux disciples et leur réaction au témoignage de ces quelques femmes, comme ils disent, d'un air un peu sarcastique et moqueur. Regardons les versets suivants, les versets 25 à 31. La réponse de Jésus à ses disciples, verset 25, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Alors, comme eux, est-ce que nous réalisons que nos cœurs sont peut-être durs, peut-être incrédules parfois, en tout cas promptes à juger ? Comment nos cœurs sont lents à croire tout ce que l'Écriture nous enseigne, tout particulièrement les prophètes ? Jésus les mentionne explicitement dans ce texte. Et c'est vrai que quand on lit les prophètes, on s'aperçoit, on se dit, mais il n'y a pas un seul moment de répit où le peuple d'Israël vraiment a écouté. On a comme l'impression, alors il y a bien eu certainement des moments où ce fut le cas, mais on a l'impression que le peuple d'Israël est toujours, ouais, comme le dit un peuple à la nuque raide, toujours, à côté de la plaque, toujours en questionnement, toujours à mettre en doute la parole des prophètes, et toujours dans une attitude bien de désobéissance. Ouais. Chaque fois qu'on lit les prophètes, je me dis, mais Seigneur, il n'y a pas eu un temps de répit, vraiment. Et on voit donc combien le peuple d'Israël est rétif, résiste aux commandements de Dieu et aux avertissements des prophètes. Et là, je voudrais dire une deuxième chose sur ce passage. Pour entrer dans sa gloire, Jésus a souffert tout ce que ses deux disciples ne comprennent pas, et donc tout ce qu'ils ne peuvent entendre à ce moment de leur vie. C'est ce que dit Jésus, verset 26, hein, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et les disciples, leur attitude, c'est « Nous espérions, ce serait lui qui délivrerait Israël. » On voit qu'il y a vraiment un décalage entre ce qu'ils ont compris, ce qu'il fallait entendre. Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Alors l'intelligence dont Jésus parle ici n'a rien à voir avec un QI élevé ou un amoncellement de connaissances, même bibliques ou théologiques. Il s'agit ici d'une mise en pratique du discernement spirituel que le Saint-Esprit donne à ceux qui ont un cœur docile, un cœur malléable, ceux qui acceptent d'être enseignés. C'est ça l'intelligence en question là. En fait, dans ce passage, intelligence et aptitude à croire, c'est-à-dire, puisque c'est le reproche que fait Jésus, et vous êtes lent à croire, sans intelligence, on voit que c'est quasi synonyme. Alors, ceci dit, facile de juger les disciples d'Emmaüs, nous ne nous croyons pas plus spirituels que ces deux disciples. La situation dans laquelle ils sont de ce premier siècle d'occupation romaine n'est vraiment pas évidente. On peut se mettre à leur place. Les prophètes avaient annoncé des temps extraordinaires pour le peuple d'Israël, les temps messianiques où vraiment bien le Seigneur se glorifierait. Et là, donc, ils sont dans une situation autrement plus difficile. Donc ils ne saisissent pas réellement le temps messianique tel que Jésus est venu l'accomplir. Alors comment, se mettant à leur place, comment ne pas désespérer comme eux, pour des Juifs qui attendent leur libérateur promis par les prophètes? Peut-être nous sommes nous aussi un peu dans cette attitude-là, nous pouvons désespérer de ne pas voir nos concitoyens, les gens à qui nous parlons, plus attentifs à notre témoignage de l'Évangile. Peut-être sommes-nous comme ces deux disciples, découragés, désabusés. Bien justement, bonne nouvelle, c'est quand on est désabusé, désespéré de nous-mêmes, que devant nos propres échecs, nous renonçons à user de nos stratagèmes humains, c'est là que Dieu vient à notre secours. Alléluia, Dieu vient à notre secours. Quand nous abdiquons, quand nous disons « Seigneur, maintenant j'arrête de vouloir régler les choses à ma façon. Prends les choses en main. » Les versets 30 et 31 sont vraiment le moment clé, charnière de ce passage. Pendant qu'il était à table avec eux, Jésus, donc, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Que s'est-il passé à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que Jésus leur a donné un bon pain, un pain complet qui les a nourris, ils ont repris des forces et d'un coup, parce qu'ils étaient fatigués, ils ne voyaient pas, et là d'un coup, ça y est, est-ce que c'est ça qui s'est passé? Je ne crois pas. Ce n'est pas le pain, voilà, ça c'est important, ce n'est pas le pain en lui-même, c'est celui qui le donne. Ce pain, en fait, donné par Jésus, communique une puissance de révélation, parce que c'est Jésus qui le donne. Ce pain, il est donné par le ressuscité. Il est donné par le ressuscité. Et en donnant ce pain, il donne aussi sa vie, sa présence. Il leur fait le cadeau de la grâce. Cette grâce qui va, je dirais, dessiller leurs yeux, ouvrir leurs yeux. C'est le pain qui donne la révélation. C'est le pain qui nourrit vraiment. Le pain qui rassasie, c'est le pain qui donne la foi. C'est le pain qui ouvre nos cœurs à la vérité. C'est le pain de la présence du ressuscité au milieu de nous. C'est le pain que nous allons prendre tout à l'heure dans la foi pour communier avec lui et entre nous. Le pain du ressuscité qui est au milieu de nous et à nous par son esprit. Au moment où il leur donne ce pain, il leur donne la vie et leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent le ressuscité. C'est là qu'on voit vraiment l'aveuglement spirituel. Jésus chemine avec eux, il n'a pas changé de forme, que je sache. Hein, c'est le même. Et là, ils reçoivent la grâce, ils le reconnaissent pour ce qu'il est, le ressuscité. Quelle gloire, hein. Quel privilège, quel bienfait. Nous l'avons dit tout à l'heure, hein. Quelle joie pour nous de connaître le ressuscité, d'en vivre et de pouvoir en témoigner. Verset 31, « Mais il disparut de devant eux. » Aïe. Que veut faire Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus veut que nous apprenions tout simplement à dépendre de lui, mais dans la foi, pas dans une dépendance infantile. Si on avait besoin de toucher, de voir, de signes tangibles, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous croyons le témoignage des Écritures, la parole de Dieu qui est vérité. Nous croyons le témoignage des apôtres qui l'ont vu ressusciter, comme dit Paul dans Corinthiens 15, plus de 500 frères à la fois. Nous croyons vraiment le témoignage des Écritures. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour croire. Le Saint-Esprit est en nous et atteste que nous sommes dans la vérité, que Jésus est ressuscité, que nous sommes dans le vrai, que nous sommes vivants parce qu'il nous communique la vie du ressuscité. Verset 32, « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» La clé de la lecture de la Bible, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, un peu plus loin, au verset 44, je crois, de ce chapitre, Jésus dit qu'il leur a expliqué tout ce qui le concernait dans la loi, dans les prophètes, dans les autres écrits. En réalité, c'est le partage tripartite des Juifs concernant l'Ancien Testament. La loi, la Torah, les Névi'im et les Ketuvim, c'est les trois parties, les trois grandes parties. Ce qui veut dire, en réalité, que tout l'Ancien Testament nous parle de Christ et que c'est à la lumière de sa venue que nous devons lire la Bible. Il est le début, le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. En lui, tout prend sens. Tout est cohérent. Il est la fameuse progéniture qui écrasera la tête du serpent. Genèse 3, déjà, verset 15. Il est celui qui vient, celui qui reviendra pour amener toutes les nations au jugement dernier. Il ramènera tout à la vérité, à sa vérité, à la lumière. Alors, pour conclure, les versets 33 à 35, « Se levant à leur même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Voilà ce que produit ce fameux pain de vie, cette grâce donnée par le ressuscité. Un enthousiasme, une joie pour témoigner du ressuscité. Ils sont courageux maintenant, ils sont convaincus, pleins de foi, prêts à braver toutes les oppositions, toutes les indifférences, même les persécutions, toutes les moqueries. Ils sont pleins de vie, pleins de force. Voilà ce que produit ce pain de vie, cette force que nous donne le Saint-Esprit, cette puissance de témoignage que nous donne le Saint-Esprit. Rien ne peut nous arrêter, frères et sœurs, quand nous avons le Saint-Esprit. Rien ne peut faire obstacle à notre témoignage, pour peu que nous soyons, comme je disais tout à l'heure, à son écoute, conscients que c'est lui qui travaille au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Que le Seigneur soit béni.